Votre matinale info sur Europe 1.
Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des cris, des pleurs et des vies envolées. 4 minutes et 17 secondes d'enfer. 6 ans après l'attentat de Nice, les victimes et leurs proches vont devoir se replonger dans l'horreur. Le procès de cette attaque revendiquée par l'État islamique s'ouvre cet après-midi, 13h, devant la cour d'assises spéciale de Paris. Bonjour Frédéric Michel.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Nice. C'est vous qui allez suivre ce procès à Paris pour Europe 1. Le 14 juillet 2016, un camion fou lancé sur la promenade des Anglais fait 86 morts, 318 blessés et 3000 personnes psychologiquement impactées. Des victimes qui attendent beaucoup de ce procès hors norme. Mais dans le box des accusés, Frédéric, pas de terroriste. Il a été tué le soir même par la police. Pas non plus de complice d'ailleurs.
Effectivement, les 6 hommes et une femme qui seront dans le box des accusés ne sont pas poursuivis pour complicité. Un 8e accusé sera lui jugé par contumace, il est en fuite. Un autre s'est suicidé en prison. 3 de ces accusés, des proches de Mohamed Laouesh Boulel, sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Pour la justice, ils étaient conscients de la radicalisation de leur ami et de sa fascination pour l'extrême violence. Quelques mois plus tôt, l'un d'eux, Chokri Chafrou, lui écrit même dans un texto « Charge le camion de 2000 tonnes de fer et coupe-lui les freins. Moi, je regarde. » Les 5 autres accusés sont poursuivis pour avoir facilité la fourniture d'armes aux terroristes, notamment le pistolet automatique retrouvé dans le camion et avec lequel Laouesh Boulel, dans sa course folle, va tirer à plusieurs reprises. Son profil psychologique, celui d'un homme violent, obsédé sexuel, consommateur de stupéfiants, sera sans aucun doute utilisé par la défense pour minimiser le rôle de leur client et appuyer la thèse de l'acte du loup solitaire. Les avocats s'étonnent notamment des indices semés par le terroriste. Les photos, les contacts des accusés ont été retrouvés dans son portable. Des noms aussi griffonnés sur des feuilles de papier bien visibles dans son appartement. Les parties civiles, avec leurs avocats, ont une autre lecture du dossier et entendent bien prouver la culpabilité des accusés.
Il y a une autre question dans cette affaire, Frédéric. Une question capitale, c'est celle de la sécurité de la promenade des Anglais. Ce soir-là, les victimes veulent savoir pourquoi, comment ce camion a pu y entrer si facilement.
Alors, c'est l'une des grandes questions de ce dossier, même s'il faut tout de suite préciser, ce n'est pas l'objet de ce procès. Une autre instruction est en cours à Nice sur cette question précise de l'organisation. Certains espèrent un procès qui pourrait ne jamais avoir lieu, car la loi stipule qu'il faut avoir volontairement été négligent en connaissance de cause, bref, en sachant qu'un acte très grave, là en l'occurrence un attentat, allait se commettre. Vous le comprenez, la fenêtre est étroite pour déterminer des responsabilités. Des familles ont déposé plainte, mais aucune mise en examen n'a été prononcée. Le préfet de l'époque, son chef de cabinet, l'ancien et l'actuel maire de Nice sont tous placés sous le statut de témoins assistés. Ils ont accès à la procédure et pour le moment, aucune charge ne pèse contre eux. C'est un dossier sensible. Polémique, Christian Estrosi, on s'en souvient, avait dénoncé le soir même le manque d'effectifs policiers, évoquant ensuite des pressions sur des agents, la saisie des images du drame. Il y a aussi eu ces sifflets accompagnant sur la promenade des Anglais le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Je vous le disais, dossier sensible. Polémique.
Merci Frédéric Michel qui suit ce procès pour Europe 1.
Et au Canada, tiens justement, aujourd'hui cette nuit, la police est sur le pied de guerre après une série d'attaques au couteau.
Et 10 personnes ont été tuées, une 15aine blessées dans 2 villes isolées de l'Ouest canadien, dont une communauté indigène. 2 suspects, Damien et Miles Sanderson, âgés de 30 et 31 ans, sont activement recherchés.
Et il est 8h05 sur Europe 1, on continue à parler de sécurité. Quel avenir pour la police judiciaire? La réforme prévue l'an prochain par Gérald Darmanin prévoit de fusionner les services de la PJ avec ceux de la sécurité publique.
Une réorganisation qui est déjà mise en place depuis plusieurs mois dans des territoires tests, dont la Martinique. Là-bas, les enquêteurs judiciaires sont logés à la même enseigne que ceux qui luttent contre le trafic de drogue ou ceux qui contrôlent les frontières, tous réunis au sein d'une même entité, la DTPN, la Direction Territoriale de la Police Nationale. Une réforme qui ne fait pas l'unanimité. Reportage de notre correspondant Florin Aussu.
Pour la procureure de Fort-de-France, Clarisse Taron, il s'agit clairement d'une perte d'efficacité dans certaines enquêtes.
Un meurtre est commis un vendredi après-midi à Fort-de-France. La personne qui est la plus gradée sur place peut être quelqu'un anciennement police aux frontières. Nous avons eu le cas à 2 reprises. Le fonctionnaire de police qui est censé diriger le dispositif est quelqu'un qui n'a aucune expérience du judiciaire.
Sentiment plus mitigé du côté des syndicats de police. Louise Iberté, représentant Alliance Police Nationale.
On peut mutualiser les forces, on peut mutualiser le matériel. Ça, c'est l'avancée. Mais par contre, le DTN a un pouvoir qui peut lui permettre de prendre un effectif à droite et à gauche pour boucher un trou à droite et à gauche aussi.
Un interlocuteur unique au sein de la police, c'est pourtant une excellente avancée pour Steve Moreau, élu en charge de la sécurité à la ville de Fort-de-France.
Nous avons les réponses sur tous les sujets, que ce soit sur le stup, que ce soit sur des questions opérationnelles, que ce soit sur des fermetures administratives, y compris sur des établissements. Donc nous gagnons du temps et nous levons bien entendu tous les points de blocage dans ces réunions-là.
Outre la Martinique, ce dispositif est aussi testé en Guadeloupe, en Savoie et dans les Pyrénées-Orientales.
Florin Aussu, notez que Gérald Darmanin, qui a reçu les responsables de la police nationale la semaine dernière, s'est dit prêt à évoquer des amendements sur ce projet.
Alors on vient de poser les termes du débat. Il se trouve que le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, sera dans le studio d'Europe 1 dans quelques minutes eh bien pour répondre aux accusations qui lui sont adressées. Il est 8h07. Vous écoutez Europe 1 et peut-être attendez-vous en ce moment même le métro ou le bus. Une attente qui se fait de plus en plus longue car les transports en commun manquent de bras.
Et oui, notamment en Ile-de-France. Jeudi dernier, tenez, 20 à 25% du trafic de bus de la RATP n'a pas pu être assuré. Ça fait plus de 1000 services perturbés. Margot Faudéré, le problème, c'est que la RATP manque de machinistes après une vague de démissions sans précédent.
Comme sur la route, pour un cheminot, l'horreur c'est l'encombrement et les arrêts intempestifs. Radouane a fait plus de 10 ans de circulation surchargée sur le RERB à Paris, une expérience épuisante.
En heure de pointe, on a des bouchons, ça circule très très lentement. On doit être beaucoup plus vigilant, donc beaucoup plus fatigant. Contrairement en province, on n'a pas de contrôleur. Toute la responsabilité est donnée sur le conducteur.
À force d'acharnement, Radouane a réussi à obtenir sa mutation à Lille en 12 ans seulement, c'est parfois beaucoup plus. Un effort qui en valait la peine pour de meilleures conditions de travail.
Comme les circulations sont plus fluides, on ne s'arrête pas toutes les 30 secondes, une minute, c'est des plus longs trajets pour le cerveau, bizarrement c'est moins fatigant.
S'il a pu exercer son métier hors de la région parisienne, d'autres ont renoncé à cette profession. Après 13 ans de service sur les lignes du RER à la gare du Nord, Frédéric a vu sa demande de mutation refusée. Il a demandé une rupture conventionnelle, lassé du manque de reconnaissance.
Quand vous rendez service, on ne vous dit jamais merci. Quand vous avez besoin de quelque chose, on ne vous aide jamais. Et au bout d'un moment, quand vous avez moins envie d'aller au travail que d'y aller, il faut faire des choix.
Le tout pour une rémunération beaucoup trop faible, selon lui.
Les journées de travail toujours plus importantes par rapport à un salaire moins attrayant. Moi, je tourne entre 2003 et 2008 à peu près. Enfin, net.
Aujourd'hui, Frédéric a changé de vie à Tarbes et comme le RER, les lignes de bus sont en souffrance. Il manquerait 1800 conducteurs en Ile-de-France.
Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.
Au Royaume-Uni, maintenant, les jeux sont faits, mais les résultats ne seront connus qu'à la mi-journée. Qui pour remplacer Boris Johnson au 10 Downing Street?
Rishi Sunak, l'ancien ministre des Finances, ou Liz Truss, ministre des Affaires étrangères. Les militants conservateurs britanniques ont déjà choisi. Bonjour Anaïs Cordoba.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni en direct de Londres, Liz Truss se présente comme l'héritière de Margaret Thatcher. Elle est largement favorite dans cette élection. Mais si elle l'emporte, sa nomination au poste de première ministre va prendre encore quelques heures, hein, Anaïs.
Oui, absolument. Il y a d'abord la grande annonce qui aura lieu dans le centre de Londres devant tout le parti conservateur réuni à 13h30. Sauf grosse surprise, vous l'avez dit, c'est Liz Truss qui devrait l'emporter. Pour les militants, c'est l'héritière de Boris Johnson et ils apprécient sa loyauté envers lui. Elle incarne aussi un retour aux valeurs conservatrices traditionnelles sur le plan économique avec sa promesse de baisser les impôts. Après l'annonce, Boris Johnson, lui, restera encore Premier ministre pendant 24 heures. C'est seulement demain qu'il quittera Downing Street définitivement. Il se rendra au château de Balmoral en Écosse où se trouve la reine pour lui remettre sa démission. La souveraine nommera ensuite son successeur, puis le ou la nouvelle chef du gouvernement entrera finalement à Downing Street demain en fin d'après-midi.
Merci beaucoup Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni. Un mot de tennis pour terminer. Caroline Garcia accède pour la première fois de sa carrière au quart de finale de l'US Open. Elle affrontera demain Coco Gauff. Chez les hommes, Daniil Medvedev, tenant du titre, s'est fait sortir en 8e par Nick Kyrgios.
Merci beaucoup. Mais oui, non, c'est Kyrgios.
On va y arriver.
C'est dément les noms. Hein.
C'est pas gagné.
Fanny Marceau.
Oui, ça c'est facile à dire.
C'est facile à se rappeler. Merci beaucoup. Je vous ai rappelé quand je vous avais appelé Sophie.
Sophie, oui.
Voilà, bon, non, c'est Fanny.
C'est pas grave, il y a pire comme comparaison. Hein. On salue Sophie Marceau. On espère qu'elle nous écoute.
Merci Fanny. Dans un instant, Frédéric Vaux, directeur général de la police nationale, est l'invité d'Europe Matin. A tout de suite.